France Inter. Frédéric Mettezeau. Le 6-9.
L'invité du grand entretien de France Inter est Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de la Conférence des évêques de France. Monseigneur, hier soir, lors de la messe de minuit à Rome, le pape François a dénoncé la voracité et l'avidité des hommes. Il a rappelé la simplicité de la crèche de Bethléem et il demande aux chrétiens et à tous les autres d'ailleurs de ne pas glisser dans les ravins de la mondanité et du consumérisme. Alors, le consumérisme, on voit bien de quoi il s'agit. La mondanité, qu'est-ce que c'est selon le pape François ?
La mondanité, c'est de se conformer au principe de ce monde-là, c'est-à-dire d'être esclave, un petit peu prisonnier de la gloriole, de ce qui fait un petit peu la vanité. Et ce qui est le contraire du message de Noël, parce que le message de Noël, c'est quoi ? C'est la simplicité, c'est le prix de la vulnérabilité, c'est la dignité de toute personne, quelle qu'elle soit. Et donc c'est ça, je crois, que le pape dénonce.
La critique du consumérisme, c'est la critique claire d'un système économique qui s'appelle capitalisme, ultralibéralisme.
Lorsque le pape parle de consumérisme, il parle fondamentalement du sens de la vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que
donc
notre vie a un sens?
Ça va au-delà de l'économie.
C'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la vie a un sens? Si le consumérisme, c'est uniquement satisfaire ses propres intérêts, c'est uniquement chercher à avoir toujours plus et ignorer celui qui est à côté de soi et qui quelquefois n'a rien, alors la vie n'a pas véritablement le sens que nous, chrétiens, nous pensons qu'il peut avoir.
Vous évoquiez tout à l'heure, Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, le message de Noël. Évoquons les migrants, parce que finalement, les parents de Jésus, ce sont à leur façon des migrants qui fuient un despote, qui fuient la pauvreté. Et dans plusieurs pays de l'Union européenne, ces migrants sont stigmatisés en Italie, en Hongrie, en Pologne, dans des pays de tradition chrétienne. Ils sont stigmatisés par des politiques qui disent défendre l'identité chrétienne de l'Europe. Comment expliquez-vous ce paradoxe ?
Parce que je pense que s'il y a une histoire du christianisme dans l'Europe, l'Europe est façonnée par de nombreuses identités et que les migrants sont stigmatisés aussi, il ne faut pas le cacher, hein, également en France, hein, dans un certain nombre de nos concitoyens. Je l'explique par la peur. C'est parce que je pense que les gens ont peur de celui qui est différent, qu'ils ont peur de celui qui ne pense pas comme eux et qu'ils craignent de perdre quelque chose en accueillant. Et il me semble que devant cette question qui est essentielle parce qu'elle est devant nous, il y a des centaines de millions de migrants qui devront migrer, quitter leur pays dans les décennies qui viennent en raison des questions climatiques, par exemple. Parce que cette question est devant nous, il faut que nous puissions toujours avoir la possibilité d'avoir le cœur ouvert. Il n'est pas possible d'accueillir tout le monde, ça c'est vrai, et il est légitime que les gouvernements aient une politique migratoire. Mais si on ne peut pas avoir les mains ouvertes, gardons le cœur ouvert, ne nous résignons pas à ce que des gens meurent en traversant la Méditerranée, à ce que des gens soient esclaves sexuels en Libye. Et tout cela, c'est impossible, je crois. Et le jour de Noël, c'est aussi le message de cette fraternité, d'une fraternité universelle.
Mais quand Emmanuel Macron, et pas seulement lui, parle d'un humanisme réaliste en la matière, si on ajoute réaliste, c'est pas le risque de baisser les bras ?
Non, je pense qu'il faut être réaliste parce que être idéaliste serait pire et risquerait de créer des déceptions. Mais réaliste ne veut pas dire minimiste, minimaliste. Et je pense que réaliste, c'est-à-dire de savoir ce qui est possible de faire, de ne pas faire moins, mais de faire tout ce qui est en notre pouvoir.
Contrairement à 2002, lors de l'élection présidentielle de 2017, l'Église française n'avait pas clairement appelé à voter contre la candidate Le Pen. On sentait bien entre les lignes que la Conférence des évêques de France n'appelait pas à voter Marine Le Pen, mais c'était pas aussi clair. Pourquoi ? Parce que les catholiques français n'échappent pas non plus à ce repli identitaire ?
Oh, la raison est tout autre, hein. C'est que je pense que les évêques ont fait le pari de l'intelligence. Et s'ils n'ont pas donné de consignes de vote, parce qu'ils ne donnent plus de consignes de vote depuis 1972, ils ont donné un certain nombre de critères par rapport auxquels il était bon d'évaluer les programmes politiques. Et vous avez, je pense, très justement vu que, à la vue de ces critères, il était possible de faire un choix sans beaucoup d'hésitation.
Il n'y avait pas de gêne entre vous, entre les évêques de France ?
Ah, nullement sur ce sujet-là.
Le mouvement des Gilets jaunes, les évêques ont appelé au dialogue, l'archevêque de Paris parle de la frustration des Français face à ce qui peut apparaître de l'arrogance. L'évêque de Montauban a porté un gilet jaune pour rendre visite aux manifestants. L'évêque de Beauvais parle d'un sentiment plus général d'abandon, d'inexistence et d'insignifiance. Les hommes d'église condamnent les violences, mais donc vous avez plutôt un regard bienveillant sur le mouvement ?
Nous constatons d'abord cette espèce de crise qui traverse notre société et qui ne date pas d'aujourd'hui. Je pense que cette crise, elle est la résultante de décennies de sentiments d'abandon, de territoire, d'inégalités qui augmentent et qui deviennent insupportables pour un certain nombre de personnes, de difficultés à finir les fins de mois. Et nous avons le désir que cette crise soit l'occasion d'un dialogue accru. Le Conseil permanent, c'est-à-dire l'instance exécutive de la Conférence des évêques de France, a appelé il y a quelques jours à ce que les chrétiens organisent des dialogues là où ils sont. Parce que notre société crève de ne pas pouvoir s'écouter, de ne pas pouvoir parler, de ne pas être entendu. Et que je pense que c'est le rôle de l'Église de permettre cela.
Comment faites-vous pour séparer le bon grain de l'ivraie ? Parce que dans les Gilets jaunes, on n'a pas vu que des beaux gestes et que des belles paroles.
Eh bien, nous faisons comme les autres, c'est-à-dire que nous refusons et nous condamnons formellement toute forme de violence, parce que la violence ne conduit à rien, et que nous essayons d'aller à la rencontre avant tout de personnes qui souffrent, en leur rappelant aussi que la solidarité est pour tous, et qu'il y a peut-être aussi des personnes qui souffrent plus encore qu'elles, et qu'elles ne doivent pas les oublier.
Dans son discours en avril dernier aux Bernardins, Emmanuel Macron demandait aux catholiques de s'engager dans la vie publique. Bon, ça tombe bien, vous proposez d'organiser des débats. Est-ce que l'Église catholique est l'un de ces corps intermédiaires, comme les syndicats ou les partis politiques, qui a été peu à peu mise de côté ?
Alors, l'Église catholique est un corps intermédiaire. La question de savoir si elle a été mise de côté est autre chose. Le poids du catholicisme dans notre pays a certainement diminué et en même temps il reste très fort. Mais l'Église, je crois, par notamment le maillage de ses 13 000 paroisses tout au long de notre territoire, est véritablement un lieu où il est possible de se rencontrer et de créer du tissu social, ce qui est si nécessaire à notre pays.
Est-ce que précisément c'est pas cette hiérarchie, ce côté protocolaire de l'Église qui parfois peut un peu rebuter les croyants? C'est peut-être notamment le cas en Amérique du Sud ou en Afrique, où là ce sont les évangélistes qui progressent énormément. Par exemple, dans l'Argentine du pape François, ce sont des structures beaucoup plus horizontales, beaucoup moins verticales que l'Église romaine.
La question se pose, mais je pense que si l'on regarde notre pays, en tout cas, la simplicité des communautés chrétiennes, l'authenticité de ce qu'elles vivent, et également la pauvreté de nos évêques et de beaucoup de prêtres, est vraiment n'est pas le signe de quelque chose de glorieux, quoi. Hein. Et il me semble que ce qui est nécessaire, c'est la joie. Et que nos communautés doivent vivre cette joie. Ce qui attire chez les évangéliques, je pense que c'est deux choses. La joie qui anime leur célébration et une authentique fraternité qui lie les membres entre eux. Et cela, c'est aussi notre trésor et nous avons à le vivre et à le développer.
Avant d'aller au standard, au 01 45 24 7000, retour sur d'autres engagements des catholiques dans la vie publique. Cette prise de position contre l'extension de la PMA à toutes les femmes, au nom, dites-vous, de la dignité de la conception, les femmes qui ont recours à la PMA ne seraient pas dignes ?
La dignité de la procréation. Il ne s'agit pas des femmes, en l'occurrence, mais il s'agit d'un acte. Et il s'agit de se dire, mais voilà, je crois qu'il y a dans le modèle bioéthique français quelque chose de très particulier qui fait qu'il y a une unité entre la personne et son corps et qu'il y a un respect de quelque chose de très profond parce que la procréation est quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement beau, de donner la vie. Et les évêques français ne s'opposent pas à la procréation médicalement assistée pour les femmes, mais ils disent qu'il y a une vraie dignité. Ils veulent être positifs.
Mais par exemple, l'Église ne s'oppose pas à l'adoption. Donc en quoi la PMA, je ne parle pas de la technique en elle-même, mais en quoi la démarche serait différente d'une adoption ? Ce serait moins digne ?
Parce qu'il s'agit de l'acte lui-même, qui est de l'acte de la conception, que l'adoption est de donner à un enfant qui n'a pas de parents par lui-même, la possibilité d'avoir des parents. Par la procréation médicalement assistée, on crée un enfant sans père lorsqu'il s'agit de deux femmes. Et donc, l'Église catholique essaye et veut montrer qu'il y a un certain nombre de dangers et de risques. Le danger de la marchandisation du corps humain, parce qu'il y aura sans doute une pénurie de gamètes et qu'il faudra peut-être les acheter. La question de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est essentiel. Quel est cet intérêt supérieur de l'enfant ? La question de la fonction même de la médecine, cette médecine qui jusqu'à maintenant était une médecine curative et qui peut devenir une médecine sociale si l'on veut remplir toutes les demandes qui peuvent exister. Et puis fondamentalement, J'entends la souffrance des femmes et de couples de femmes ou de femmes seules qui souffrent de ne pas avoir d'enfants. Mais c'est quelle est cette société qui ne peut plus accepter aucune souffrance et auquel il faut donner réponse à tout, de toutes les manières possibles. La question, je pense, est de dire comment est-ce que nous pouvons assumer une part de souffrance dans notre existence par une solidarité qui existe, par un sens donné à notre vie, par une fécondité que chacun de nous est appelé à trouver au-delà d'une procréation.
Mais Monseigneur Ribadeau Dumas, est-ce qu'il y a, pour reprendre vos termes, un risque, un danger à ce que deux femmes aimantes et attentionnées élèvent ensemble un enfant ?
Il n'y a pas de risque et de danger en tant que tel. Il y a une question de société. Quelle société voulons-nous ? C'était le titre des États généraux de la bioéthique. Est-ce que c'est une société qui remplit tous les désirs de chacun, d'une société qui regarde uniquement l'individu tel qu'il est pour satisfaire ses propres besoins, une société qui pense que tout progrès doit être une possibilité et devenir une réalité, ou une société qui parie sur la fraternité et sur la solidarité pour que ceux qui souffrent puissent être aidés et trouver un sens ainsi à leur vie.
Courant janvier, ce sera le procès de Monseigneur Barbarin, archevêque de Lyon, primat des Gaules, pour ne pas avoir dénoncé un curé pédophile, le père Prénat. Est-ce que les choses ont vraiment changé ? Parce qu'on n'en finit pas d'être surpris, d'être choqué, et pour ceux qui croient en Dieu ou en l'Église, d'être déçus.
On a raison de ne pas en finir d'être choqué, déçu, parce que c'est un crime abominable que ces atteintes aux enfants. Je pense que depuis maintenant 3 ans, dans notre pays en tout cas, des mesures fortes ont été prises par les évêques de France et sont appliquées. Une attention profonde et première aux victimes, le désir de coopérer sans faille avec la justice, une volonté de mettre en œuvre des mesures de prévention, le désir aussi de s'occuper des auteurs d'actes de ces actes abominables. Mais il faut que la culture même de la société change. Et que ce soit pas uniquement les évêques ou les prêtres, mais que toute la communauté chrétienne, tous les chrétiens soient persuadés que ces crimes sont absolument abominables et qu'il faut tout faire pour les éradiquer.
Mais par exemple, en septembre 2018, le père Xibo, interrogé dans l'émission C'est Politique, ce n'est pas n'importe qui, c'est un prêtre qui a des fonctions éminentes, il est chancelier du diocèse de Strasbourg, c'était il y a seulement 3 mois, il disait... On pensait que pour l'enfant, ce serait un mauvais souvenir. Et maintenant, on a compris, à la lumière des expériences des gens qui ont 75 ans. Reconnaissez qu'il y a encore du chemin à faire.
Bien sûr qu'il y a encore du chemin à faire. Il y a du chemin qui a été parcouru, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et c'est heureux. Et le pape l'a rappelé, d'ailleurs, il y a quelques jours dans ses vœux aux autorités romaines.
Oui, il a demandé aux coupables d'abus sexuels de se livrer à la justice civile.
Et il l'a demandé et il a remercié les journalistes pour tout le travail qu'ils faisaient en cette matière pour dénoncer ces abus épouvantables.
Allez, on va aller au standard de France Inter, 01 45 24 7000. Vous pouvez aussi nous écrire sur franceinter.fr. Bonjour Gilles.
Oui, bonjour.
Vous êtes à l'antenne et Monseigneur Ribadeau Dumas vous écoute.
Oui, bonjour monsieur. Voilà, je m'adresse aux représentants de l'institution catholique et non aux catholiques. Je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi... Depuis des décennies, l'Église a été contre la pilule, contre l'IVG, contre le mariage pour tous, contre l'extension de la PMA, qui sont quand même des avancées sociétales sur le vivre ensemble, sur la tolérance. Et en même temps, pourquoi l'Église est incapable d'ouvrir les placards, ses archives sur les questions de la pédophilie, sur la question des prêtres directement impliqués et sur leur soutien au sein de vos hiérarchies. Voilà, monsieur. Ce que je souhaitais vous dire pour Noël.
Merci de cet appel, Gilles. Monseigneur Ribadeau Dumas vous répond. Alors, il y a deux questions. Il a élargi, Gilles, notre auditeur, le débat sur la PMA à toutes les questions sociétales, mariage pour tous, contraception. Pourquoi l'Église a toujours dit non ?
L'Église ne dit pas non, l'Église dit oui. Et l'Église dit oui à la vie. L'Église dit oui à une vision de la personne humaine. Une personne humaine qui est créée par Dieu et à l'image de Dieu. Une personne humaine qui est créée homme et femme, dans une altérité et une complémentarité. Une personne humaine qui est créée pour aimer, et aimer en se donnant totalement. Et je crois que c'est ça le message fondamental de l'Église. C'est de dire oui à une vision de la personne humaine, et donc oui à une vision de la société. Une société dans laquelle les gens ne sont pas des individus isolés les uns des autres, dont le seul but serait de satisfaire leurs intérêts propres, mais dont le but c'est de se donner, de s'aimer, et de construire ensemble une société qui soit un peu à l'image de ce que l'Évangile nous propose comme le royaume de Dieu. Donc c'est d'abord un oui que l'Église dit.
Mais sur la question de la pilule, par exemple, qu'évoquait Gilles au standard, on sait qu'il y avait eu des débats au début des années 70, avant que le pape Paul VI dise non à ce moyen de contraception, il y avait eu débat au sein de l'Église. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il n'y a plus de débat.
S'il n'y a plus de
débat. À moins que vous en parliez à huis clos.
Vous savez, s'il n'y a pas de débat, c'est parce que je pense que.
C'est tranché.
Ne nous leurrons pas. Le pape a beau dire beaucoup de choses, je ne suis pas sûr que les chrétiens et les chrétiennes, en tout cas, écoutent en ce domaine-là ce que le pape dit. Et que d'ailleurs, il est important de se rendre compte que le pape François ne parle pas tant de ces questions-là que des questions sociales. Et qu'il le dit très souvent, ce qui est essentiel, c'est les questions de l'immigration, de justice sociale, de consumérisme, comme il l'a redit cette nuit. Et il dit que l'Église peut s'arrêter à la porte de la chambre à coucher des couples.
Nous retournons au standard. Bonjour Bernard Yves.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur l'antenne d'Inter.
Merci à vous, bonjour à tous.
On vous écoute Bernard Yves.
Oui, donc j'avais interrogé, bonjour aux représentants des évêques, j'avais interrogé l'épiscopat par mail concernant son silence au moment où Aquarius était en mer avec des émigrés, et vous savez qu'il n'avait pas le choix, il ne pouvait pas aborder soit l'Italie, soit la France, et l'épiscopat sur cette question restait silencieux à ce moment-là. Et donc j'ai envoyé un mail et j'ai eu une réponse de l'épiscopat en disant « Mais vous savez, l'épiscopat espagnol a répondu. » C'était pas ma question. Ma question, c'est pourquoi l'épiscopat est resté silencieux. J'ai entendu parler tout à l'heure de l'intelligence du silence. Mais là, franchement, le silence, pour moi, était gênant, sans doute pour beaucoup d'autres Français. Voilà ma question. Pourquoi l'épiscopat était silencieux?
Alors, restez en ligne, Bernard Yves. Monseigneur Ribadeau Dumas vous répond et puis on vous reprend tout de suite.
Alors, l'épiscopat ne se prononce pas, l'épiscopat en tant que tel, c'est-à-dire la conférence des évêques de France ne se prononce pas sur toutes les questions, mais en l'occurrence, en ce qui concerne l'Aquarius, l'archevêque de Marseille a pu s'exprimer et a pu rencontrer des personnes de l'Aquarius. Mais cela pose une question beaucoup plus large, celle que vous posez, monsieur, je pense, c'est la question de l'accueil des migrants. Et que, sur cette question-là, les évêques de France et les évêques du monde entier ne cessent de se prononcer et ne cessent d'inviter à avoir une attitude ouverte et claire. Et je pense que lorsque j'ai dit tout à l'heure qu'il était inconcevable et insupportable de voir des gens mourir en Méditerranée, je pense que l'Aquarius a un rôle dans ce domaine-là. Il est fort dommage d'ailleurs qu'il ne puisse plus le remplir.
Bernard Yves, vous dites « j'ai envoyé un mail au représentant de l'épiscopat ». Vous envoyez ce mail en tant qu'observateur de la société, de la chose publique, ou vous envoyez ça comme catholique qui cherche une réponse?
Comme observateur. Vous savez, j'ai été élevé dans le patronage, la JOC, etc. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas vraiment catholique, en tout cas pratiquant, mais je suis de la génération de Mgr Marty et Mgr Etchegaray, et j'ai pensé à eux à ce moment-là, je me suis dit, je crois que j'aurais entendu quelque chose de l'épiscopat, voilà.
Il y a encore des prophètes, vous savez. Et les prophètes, ils ne sont pas uniquement chez les évêques. Nous n'avons pas besoin des évêques pour être prophètes, pour avoir une parole dans la société. C'est chaque chrétien qui doit vivre cela. C'est chaque chrétien qui est appelé à aller vers l'autre, à accueillir le migrant et à aussi pouvoir dire là où il est la nécessité de cet accueil et d'une position vis-à-vis de l'Aquarius.
9h-20, bonjour Sylvie.
Oui, bonjour.
Soyez la bienvenue.
Merci.
Nous écoutons votre question.
Voilà, moi j'ai une question. Alors j'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont fait plaisir, là, notamment la dernière question sur l'Aquarius et la réponse du clergé, on va dire. Moi j'ai une question, alors je vais faire une petite démonstration. Donc puisque Dieu est créateur, Dieu a créé donc tout ce qu'il y a sur Terre, Dieu a créé aussi les homosexuels. Donc, alors je précise, je ne suis pas homosexuelle, hein. Je ne prêche pas pour ma paroisse, excusez-moi ce petit jeu de mots. Donc j'ai une question, puisque l'homosexualité existe, hein, et que c'est une création de Dieu, je voudrais savoir pourquoi y a-t-il ce que moi j'appelle, bon, peut-être un peu durement, un acharnement sur cette orientation sexuelle, d'autant plus que j'ai entendu que dernièrement le pape a dit que c'était devenu une mode. Donc je ne crois pas qu'on se lève un matin en se disant « Youpi, aujourd'hui, voilà, je vais être à la mode, je vais être homosexualiste ». C'est quelque chose qui est intérieur, c'est comme ça. On est comme ça. Et donc je voudrais avoir une réponse sur cette forme d'intolérance que je constate par rapport à l'homosexualité.
Eh bien, Mgr Ribadeau Dumas vous répond, Sylvie.
En 2013, je crois, le pape François, dans un avion, a dit « Mais qui suis-je pour juger les personnes homosexuelles ?» Et cette phrase que le pape a dite, je pense qu'il ne la remettrait pas en cause aujourd'hui. Qui sommes-nous pour juger les personnes? Et je crois que personne ne choisit d'être homosexuel. La question est de savoir comment est-ce que l'on vit et comment on est appelé au bonheur et comment on est appelé à la sainteté comme chacun de nous avec son orientation sexuelle. Je crois que l'Église, elle ne regarde pas l'orientation sexuelle, elle regarde la personne, elle regarde la beauté de la personne, la dignité de la personne.
Elle évoque quand même beaucoup les orientations sexuelles, l'Église.
Alors écoutez, je ne crois pas que le message de l'Église, je suis prêt depuis 30 ans, honnêtement, je ne passe pas ma vie à parler des questions sexuelles aux gens que je rencontre. Je passe ma vie à leur parler de leur épanouissement, de leur bonheur, de ce qui fait leur vie, de leur relation avec le Christ. Et c'est ça qui est essentiel. Que les personnes soient hétérosexuelles ou qu'elles soient homosexuelles, pour un certain nombre, ce n'est pas un choix. Et accueillant et accompagnant beaucoup de personnes homosexuelles, je me rends compte et je vois la souffrance que cela représente pour elles. Comment ces personnes sont-elles appelées au bonheur? C'est ça la question essentielle. Et je trouve que il faut arrêter, me semble-t-il, de penser que l'Église aurait comme une focalisation sur ces questions-là. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est la question de la vie personnelle, la question de la vie en société, la question du rapport des uns avec les autres, la question du rapport avec Dieu et de ce qui peut nous permettre de vivre le plus tel que nous sommes, c'est-à-dire créé à l'image et à la ressemblance de Dieu.
On a évoqué la PMA pour toutes, qui sera l'un des chantiers en 2019. Autre chantier que l'État souhaite mettre sur la table, c'est la réforme et l'organisation de l'islam de France. Est-ce qu'il peut s'inspirer de l'organisation de l'Église catholique et de ses relations avec l'État, ou au contraire, est-ce que ce serait une vision christiano-centrée? Et de toute façon, l'organisation d'une religion dépendant largement de son dogme, il ne faut pas calquer.
Je ne sais pas si l'organisation dépend de son dogme, mais en tout cas, ça sera très difficile de calquer l'organisation d'une religion qui est multiforme, sans autorité hiérarchique,
ecclésiastique,
avec une religion comme la nôtre, où ce qui est pratique, c'est qu'il y a un représentant et que donc on peut discuter avec lui. Mais c'est vrai que une des difficultés, c'est sans doute de se dire, mais comment est-ce que on y a un équilibre entre cette volonté d'organisation de la part des autorités et puis la liberté qui est laissée aux musulmans de s'organiser tels qu'ils veulent.
C'est à l'État de s'en occuper ou pas?
En 1905, il y a eu la loi de séparation des églises et de l'État qui fait que l'État ne s'occupe pas de l'église et l'église ne s'occupe pas de l'État.
C'est QFD.
Et donc, je pense que c'est d'abord aux musulmans de trouver des formes d'organisation et de trouver des moyens d'être représentés à tous les niveaux, parce que c'est essentiel qu'il y ait des interlocuteurs.
Audrey, bonjour.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonne fête à tous.
Joyeux Noël à vous.
Merci. Ma question, compte tenu de tout ce qu'on a découvert, toutes les horreurs sur la pédophilie, et aussi sur la crise de vocation des prêtres, pourquoi est-ce que l'Église n'évolue pas sur la question du mariage des prêtres?
Merci Audrey pour votre question. Réponse courte pour un sujet vaste, Monseigneur Ribadeau-Dumas.
La question du mariage des prêtres n'est pas une question qui tient au dogme. On voit bien que dans une partie de l'Église catholique, notamment les églises orientales, les prêtres sont mariés. Mais je ne fais pas le lien, moi, entre les crises de pédocriminalité que vous évoquez et les mariages des prêtres, parce qu'il y a des hommes mariés qui, malheureusement, abusent d'enfants. Mais la question est celle de l'équilibre affectif des prêtres. Et c'est sur ce point-là qu'il faut, je crois, être particulièrement vigilant. Un prêtre, parce qu'il est célibataire, n'est pas un frustré de l'amour.
Audrey parlait aussi de la vocation et de la crise des vocations. Est-ce que si le mariage des prêtres était permis, ça ne vous permettrait pas de recruter, si je puis dire?
Nous ne le cherchons pas de cette manière-là. Nous cherchons à ce qu'il y ait des prêtres. Mais je ne suis pas sûr que le célibat soit ce qui empêche le plus d'hommes aujourd'hui à devenir prêtres. La question est celle de l'engagement de donner sa vie, de donner toute sa vie, y compris dans son rapport à la sexualité.
Mais les pasteurs, les popes, les imams, ils ne donnent pas toute leur vie à leur Dieu et à leur famille?
Et vous pensez que dans notre pays, il n'y a pas de crise de vocation pour les pasteurs, les popes et les imams?
J'en sais rien, j'ai pas.
Eh bien, je peux vous dire qu'il y en a.
Donc, la crise des vocations touche toutes les religions.
Oui,
c'est ça que vous nous dites.
Oui, parce que c'est une crise de l'engagement et que l'engagement dans la société aujourd'hui est une question qui est en crise.
Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas était l'invité de France Inter. Merci d'être venu jusqu'à nous.
Merci
Il
beaucoup.
Est 9h moins le quart.